Est-ce qu'on se souvient du sujet de la semaine dernière? C'est difficile d'oublier. Hein? Alors, notre texte, c'était sur le serviteur par excellence, le modèle de maître aussi. C'est pas juste le modèle de serviteur, mais le modèle de maître que le Seigneur a voulu laisser. C'est écrit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Les a aimés jusqu'au bout, il les a aimés à l'extrême. Il s'est rendu à l'extrême limite. Et une façon de le communiquer à ses disciples, ça a été de leur laver les pieds. Et il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, c'est un peu ce texte-là qu'on a regardé la semaine dernière, et un point particulier qui m'a frappé, c'est que Jésus a lavé les pieds de Judas. Il savait très bien que Judas allait le livrer, allait le trahir, et au lieu de le prendre par la gorge, puis le jeter dehors, puis le condamner, il s'est simplement mis à genoux devant Judas, à terre, lui le Dieu, trois fois saint, aux pieds de sa créature pour lui laver les pieds. Alors, c'est une image qui vaut mille mots, hein, sur le caractère de Jésus-Christ, qui veut que nous ayons. Hein. Il allait mourir, là, il allait monter sur la croix, il allait donner sa vie. Et à quoi qu'il pense? Il pense à ses apôtres, il pense à ses disciples qui va laisser derrière, et il pense à faire la volonté de son Père par-dessus toute chose. Et ça, c'est la définition d'un apôtre, définition d'un disciple, définition d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur. C'est cet esprit de service, cet esprit d'humilité. J'ai lutté avec mon humilité cette semaine. Plus conscient, en tout cas, après le message, j'étais plus conscient de la tentation de l'orgueil, d'être orgueilleux. Et dimanche dernier, après la célébration ici, je suis allé à Granby, c'était les forteresses, et il y avait les témoignages des personnes. Et puis là, j'arrive là-bas, puis il y avait une femme, quand elle m'a vu, elle m'a presque sauté au cou, et puis elle avait le vrai, elle disait le double, parce que je me suis fait remplacer, puis c'est un vidéo de l'enseignement qui a passé à la place que moi je donne l'enseignement. Et puis là, pendant que j'apportais le message sur vidéo, la dame, elle a été touchée, elle a eu une guérison profonde dans son cœur. Puis là, en me voyant, elle ne pouvait pas faire autrement que vouloir me sauter dans les bras. Alors, et elle s'exprimait pour me le faire. C'était même gênant, là, tu sais. Et qu'est-ce que je fais avec ce... Hein? Qu'est-ce que je fais avec cet orgueil-là ou cette fierté-là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et après ça, il y avait un couple qui était là. Il y a 20 ans, j'avais été à Sherbrooke, dans une grosse église. Et puis là, ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vus. Et là, la madame, en particulier, elle se souvenait d'un réveil qu'elle avait eu spirituellement. Il y avait eu comme un réveil dans l'église. Et là, encore là, elle était tellement contente de me voir puis de partager ces moments-là. Cette semaine, je reçois un appel. C'est une de ses amies qui avait entendu parler, qu'elle m'avait vu. Elle a cherché un Michel Hull dans toute la province qui restait quelque part sur une île. Elle ne se souvenait plus c'était quelle île. Et elle l'a trouvé finalement, l'île bizarre. Et c'était, encore une fois, c'était une dame qui, de cette époque-là, qui voulait juste me parler, était tellement contente d'avoir été retrouvée. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? Qu'est-ce que Paul faisait avec les louanges? Je reçois l'annuaire du district cette semaine. Je vérifiais là-dedans, tu sais, s'il y avait il y avait des fautes. Et puis, j'arrive à une place. j'arrive à une place. Je vais le retrouver, là. Réseau de direction, président Francis Pearson, vice-président Michel Hull. Je suis pas digne de délier l'issue. Bon, il peut faciliter la tâche, mais ça a fait comme... Hey! Hein? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment ça fait que ça m'a... C'est venu me chercher comme ça. Pas quelque chose que j'ai couru après ça, là. M'a plutôt désigné, si on peut dire. Et la cerise sur le gâteau. Hein? Je reçois l'Alliance, un beau journal de l'Alliance au Canada, puis commence à regarder ça, tout ce qui se passe à travers le Canada. Puis à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Ouh! Belle photo, deux pages, hein, sur deux pages, avec l'article de ma mise à jour quand on a fait IBV. Je me souvenais qu'on m'avait demandé ça, mais j'avais complètement oublié, puis j'ai en feuilletant ça. Alors, c'était dur pour mon orgueil, hein? Mon orgueil n'a pris un coup. Qu'est-ce qu'on fait avec la gloire, le rang honorable, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais, attendez un petit peu. La semaine passée, après le message, Ben, il dit « Enfin, un bon message. » Puis, ben, quand tu dis de quoi? Alors, nul n'est prophète dans son pays. Mais il disait ça parce qu'il était touché. Il pensait qu'on a touché un point fondamental. Hein? Quelque chose de vraiment basique à la base, qui est l'humilité. Et il m'a référé à un monsieur bien connu, C.S. Lewis, qui a écrit un article sur... En anglais, c'est pride, hein? Orgueil. Et en français, on a un petit peu plus de, je dirais, de synonymes. Fait que là, j'ai lutté entre orgueil et fierté. Dans son livre, Mere Christianité, Mere, ça veut dire quoi, Mere Ordinal? Juste simple, la simple. En France, traduit en français? C'est traduit en français, mais...
Oui, mais ils ont changé.
Oui, hein?
Les fondements du christianisme.
OK. D'accord. En tout cas, il avait lu ça, puis il avait été impressionné. Et puis, je vais vous résumer un petit peu ce que monsieur... je pense qu'il vaut la peine d'être écouté. Monsieur Lewis, hein? Pour lui, et là, je vais faire exprès pour utiliser fierté. Et orgueil, ce sera trop facile. Parce que tout orgueil est à la base est péché, je pense. On ne peut pas être orgueilleux sans péché. Mais est-ce qu'on peut être fier? Alors, d'après ce que j'ai compris de M. Lewis, toute fierté ne vient et ne se ressent qu'en se comparant. Je ne peux pas être fier à moins que je me compare. C'est vraiment un synonyme ou une facette de l'orgueil, c'est la fierté. Et on sait que l'orgueil, c'est la racine du mal, c'est l'origine du mal. C'est comme ça que Satan a défié Dieu, c'est par orgueil. C'est comme ça que Adam et Ève, vous serez comme des dieux, c'est comme ça qu'ils ont été tentés, c'est comme ça qu'ils ont péché. Alors, c'est vraiment l'orgueil qui est à la racine de tout le reste. Et ça décrit cet esprit anti-Dieu, l'esprit orgueilleux, qui ne veut pas reconnaître, qui adore la créature au Dieu du Créateur. C'est de l'orgueil. Alors, il amène quelques sujets qui m'ont fait réfléchir, que je vous partage là-dessus. Il dit que le vrai plaisir, la vraie satisfaction, c'est pas de posséder des choses. Le vrai plaisir, la vraie satisfaction, c'est d'en posséder plus que l'autre. Plus je suis riche, plus je suis beau, plus je suis intelligent, plus j'ai du pouvoir, plus je suis puissant par rapport aux autres, plus je peux être fier, puis je vais être orgueilleux. Hein? Alors, fierté, quand on parle de fierté, on parle de compétition, on parle de comparaison. Je suis fier quand je me compare aux autres. Et il dit qu'un fier ne peut pas reconnaître Dieu, ne peut pas connaître Dieu. Parce qu'un fier, il regarde toujours par en bas, puis il ne regarde pas en haut. Le fier, il regarde les autres de haut. Alors, il ne peut pas connaître Dieu, parce que Dieu est au-dessus de lui, Dieu est en haut. Alors, j'ai trouvé que c'est toute une image. On voit les personnes, on voit les choses comme étant au-dessous de nous, plus basses que nous, et on ne peut pas voir qu'est-ce qui est au-dessus de nous, Dieu. Il dit que oui, un orgueilleux peut se vanter de connaître Dieu, peut être très, très, très religieux, mais il connaît Dieu plus que les autres. Et il sert Dieu plus que les autres. On a un bon exemple hein, dans ce texte-là. Une parabole à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont voleurs, mauvais, adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme un collecteur d'impôts. Un traître. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne la dîme de tous mes revenus. Tandis que le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, se frappait la poitrine et disait, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors, on a un exemple de cet orgueil-là, qui est péché, de cette fierté-là qui est péché. Est-ce qu'il faisait des mauvaises choses? Il faisait des choses louables. Mais le problème, c'était que il se comparait à un autre qui était plus beau que lui. Il regardait les autres comme étant plus beau que lui. Et c'est là qu'est le péché. Il a fait des mises au point. Alors là, une fois qu'il a affirmé que toute fierté, c'est péché, il va faire des petits compromis un petit peu, en tout cas, je trouve. Le plaisir d'être loué, d'être louangé, d'être honoré, d'être glorifié, c'est pas de la fierté, en parenthèse orgueil. Le plaisir qu'on éprouve à être honoré, louangé, ça peut être un plaisir légitime d'entendre Dieu dire, par exemple, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Hein? Alors, on peut éprouver du plaisir à avoir fait la volonté de Dieu, avoir accompli quelque chose pour le Seigneur. Mais si ça devient « Quel bon serviteur je suis », quelle bonne personne je suis, toujours en me comparant aux autres personnes. Alors, plus on se délecte là-dedans, plus on se nourrit là-dedans, plus on est affamé. Et pire on devient. Plus on en manque, plus on en recherche, on a désespérément besoin de performer, d'admiration, de louange, d'être apprécié, d'être applaudi. Du succès, de la réussite, ça devient comme une drogue. Hein? Drogué à l'adrénaline qui nous pousse à faire des choses pour être reconnu, avoir du succès. Et Paul n'était pas au-dessus de c'était cette tentation-là. L'apôtre Paul lui-même. Hein? Est-ce que c'est un performeur? Mais, hein? Il y a des chapitres où il raconte toutes les performances. Il dit qu'il parle comme un fou. Et là, il raconte tout ce qu'il a fait pour la cause de Christ. Et dans le Corinthiens, si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, car je dirais la vérité. Mais j'évite de me vanter, car je ne désire pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce qu'on me voit faire ou m'entend dire. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps. Ailleurs, on dit un écharpe, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Dieu avait placé cette... On pense que c'est possiblement une maladie des yeux qui était laid, qui était hideux. Et puis quand il venait pour prêcher, ben c'était pas beau. Alors, c'est quelque chose comme ça, quelque chose qui... l'humiliait, qui était vraiment humiliant pour lui. Et il accorde ça comme une faveur qu'il a reçue de Dieu pour l'empêcher de s'enorgueillir de toutes ses performances et de ses révélations qu'il a reçues. Alors, on n'est pas à l'abri de ça. Et surtout lorsqu'on a du succès. Et le Seigneur, il va nous garder humbles. Il sait nous garder humbles. Il va nous placer dans une situation, soit des personnes, soit des événements qui vont faire que, calme-toi un petit peu là. Hein? Devant notre réalité. Alors ça, c'est une première... je dirais concession qu'il fait. On peut avoir du plaisir légitime à recevoir une louange ou lorsqu'on a accompli quelque chose qui est bien. Il y a aussi une autre nuance qui apporte, c'est fierté dans le sens d'admiration. La fierté dans le sens qu'on admire quelqu'un d'autre que nous-mêmes, ça passe. Au lieu de s'admirer soi-même, au lieu de se vanter soi-même, on admet quelque chose qui est en dehors de nous. Donc, c'est comme un pas dans la bonne direction. On admire quelqu'un d'autre. Et si on n'admire personne d'autre, on est dans le trouble. Est-ce que il n'y a personne d'autre que j'admire? Ça veut dire que je suis pas mal haut dans le... Hein? Alors, un signe de détachement de mon ego, c'est que je suis capable d'admirer quelqu'un d'autre que moi-même. Tant que c'est pas, ça ne prend pas la place de Dieu. Parce qu'il y a une admiration qui revient à Dieu seul. Et on ne doit pas admirer outre mesure, glorifier, déifier les personnes. Est-ce qu'on peut être fier de nos enfants? Est-ce qu'on peut être fier de notre fils, de notre fille? Est-ce qu'on peut admirer nos enfants? Oui? Si c'est parce que mon fils est meilleur que les autres. Ou si je me réalise à travers mon fils, hein, ou je suis un bon père. Regardez comme si je suis un bon père avec les enfants que j'ai mis au monde, que j'ai élevés. Subtil, hein? C'est où qui est le péché là-dedans, là? Hein? La minute que je me pète les bretelles, la minute que je m'attribue du mérite, outre mesure, c'est péché. Yark. Troisième point, c'est plus je fais connaître Dieu, plus je connais Dieu, plus je m'approche de Dieu, plus je serai humble. Plus je vais connaître Dieu, plus je vais m'approcher de Dieu, plus ce qui va ressortir de cette communion-là, ça va être l'humilité. Hein? Parce qu'en m'approchant de Dieu, si je m'approche de Dieu, ce que je vais ressentir, ce que je vais recevoir, c'est son amour. Hein? Si je m'approche de Dieu assez proche, je vais sentir sa main autour de moi. Je vais ressentir la valeur que j'ai pour Dieu. Je vais sentir que je vais être en sécurité dans l'amour de Dieu. Je n'ai plus besoin de performer. Je n'ai plus besoin d'en mettre plein les yeux. Je n'ai pas besoin de façade. Je suis juste en sécurité, tranquille dans l'amour de mon Père. Et si j'ai des choses à faire, je ne le fais plus pour épater, pour plaire aux autres ou quoi que ce soit, je le fais parce que ça plaît à Dieu que j'aime en retour. Hein? Et moins de compétition, moins de comparaison, plus je suis proche de Dieu, moins je suis en compétition avec mon frère, ma soeur. Je suis satisfait et je ne dépends plus de l'amour de l'autre personne. Ce qui fait que je suis libre de servir. Plus je suis détaché de moi-même, plus je suis tourné vers le Seigneur, plus je suis libre de servir humblement, parce que ma valeur n'est plus en cause. Alors ça, c'est des... la réflexion que C.S. Lewis m'a apporté à faire, et puis que je nous invite à faire aussi. On va voir la table du Seigneur, je pense que c'est un bon endroit où on peut se mettre en règle avec le Seigneur et enlever ce cancer-là, hein, cette racine profonde qui est l'orgueil. Combien de choses je peux faire dans une journée qui est motivée par me revaloriser. Hein? J'arrive à une intersection, comme je disais la semaine dernière, tu sais, puis c'est qui va passer, là? Hein? Qui va passer le premier? Tu arrives en ligne à l'épicerie, c'est qui va passer le premier? On est toujours en compétition. Et ça, c'est un signe d'orgueil. Si je suis en compétition avec quelqu'un d'autre, il y a un orgueil derrière ça, qui est malsain, qui est nocif. Alors, comment on règle ça? Je pense que c'est la clé. Ou une des clés, c'est en Jésus-Christ, ce que je suis en Jésus-Christ. Lorsque je suis venu à Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Mais quoi, sommes-nous, nous les Juifs, supérieurs aux autres? Pas du tout. J'ai déjà démontré que tous, Juifs et non-Juifs, sont également sous la domination du péché. L'Écriture le déclare, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, lorsque je suis venu à Jésus-Christ, j'ai fait cette déclaration-là. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas juste. Personne qui fait le bien comme il devrait le faire. Et si on met le bien et le mal qu'on fait dans une balance, même s'il y a une petite chose mal, puis beaucoup de bien, aux yeux de Dieu, je suis perdu. Alors, lorsque je viens à Jésus-Christ, toute personne qui est venue à Jésus-Christ a remis son orgueil de côté, a été obligée de mettre son orgueil de côté et de dire, il n'y a personne qui fait le bien, personne qui mérite quoi que ce soit, sinon la condamnation. On est incapable de faire le bien comme on devrait le faire. Je suis coupable et ce que je mérite, ce n'est pas les honneurs. Ce que je mérite, c'est la honte. Alors, ça c'est une base première sur laquelle on peut s'appuyer pour bâtir une fierté dans le Seigneur. Seigneur, ce que je mérite, c'est l'enfer, la condamnation éternelle, la séparation d'avec toi pour l'éternité, même si j'ai dit à mon frère stupide, c'est suffisant. Si j'ai regardé une femme pour la convoiter, c'est suffisant. J'ai failli. Et il ajoute dans Éphésiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie d'entrer au ciel par ses propres forces, par ses propres mérites. Il n'y a personne qui va dire, « Hey, j'ai été meilleur que tous les êtres humains sur la terre, ou qu'une bonne partie de l'humanité. J'ai été meilleur que Hitler. Hein? » Et tous ces affreux monstres humains-là, personne ne peut dire ça. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Peut-être que Hitler est un petit peu plus pécheur, mais aux yeux de Dieu, là, d'en haut, tu vois pas la différence. Alors, personne ne peut se glorifier de ses œuvres. Parce que c'est seulement par la foi. Hein? C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que je reçois le salut, que je reçois ma justice, que je suis justifié. On est dégagé en Jésus-Christ. On est dégagé de l'obligation de gagner son ciel, de gagner la faveur de Dieu. On est dégagé de cette obligation-là. Si on est encore en train de faire des choses performées pour essayer de gagner la faveur de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'on ne peut pas être aimé plus qu'on l'est là. Que Dieu, le Père, nous aime comme son Fils. Puis Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Est-ce qu'on peut être aimé plus que ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire qui va faire qu'on va être plus aimé par Dieu? Alors, on débat de ce système-là de performance. Hein? Je ne peux pas avoir plus de valeur que j'ai en Jésus-Christ que j'en ai là. Et on n'est plus sur le régime des œuvres pour me péter les bretelles. On n'est plus là-dedans. Maintenant, lorsque je fais du bien, lorsque je fais ce qui est bon et agréable à Dieu, c'est gratis. C'est gratis. C'est plus moi qui est dans le portrait. Je suis libre de mon ego. Et c'est seulement une grâce de Dieu que je peux faire ce que j'ai fait. C'est seulement une grâce de Dieu que j'ai pu aider ces madames-là, même à travers la vidéo. C'est une grâce de Dieu. Qu'est-ce que moi, j'ai fait là-dedans? Simplement que servir le Seigneur. C'est une grâce de Dieu. Je ne peux pas lever le petit doigt. Je pourrais être en chaise roulante, plugué dans un lit d'hôpital. Et souvent, je me vois comme ça aussi. Et impuissant. Et Paul, il dit, hein, sans toi, sans lui, on ne peut rien faire. Sans, Paul, il savait que sans lui, il ne pouvait rien faire. Mais il n'est pas arrêté là. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, qui est-ce qui me donne la force de faire ce que je fais? Qui est-ce qui me donne l'opportunité de faire ce que je fais? C'est Dieu. Et à qui revient la gloire? À Dieu. Est-ce que je peux être fier de participer à la gloire de Dieu? Ce n'est pas ma gloire. C'est la gloire de Dieu et je peux participer à la gloire de Dieu. Et je peux être fier Et j'ai trouvé plein de versets en terminant qui confirment. Parce que on donne un exemple de ce que j'ai dit là. Alors, il parle de fierté. En anglais, hein, il n'y a pas de terme, hein, c'est juste pride, c'est juste orgueil. Est-ce que pride, hein? Ou fierté? C'est la même affaire. Est-ce qu'il y a une différence entre être pride puis être proud? Est-ce qu'on peut être... Ok, je vais... Est-ce que je peux être proud de quelque chose sans péché? Ça dépend du contexte. Ok. Comme là, on pourrait pas traduire orgueil. Les mots fierté qui sont là, on pourrait pas traduire orgueil. Mais le mot grec veut dire s'enfler. Là, hein? Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous trouvons désormais établis et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Je peux être fier de l'espérance que j'ai d'avoir part à la gloire de Dieu. Mais si je le suis par rapport aux autres, oups! Oui, Marc, tu avais une...
Oui, c'est qu'en plus, en grec, je pense que le mot, c'est gloire.
C'est ah oui, je me trompe, oui.
Et notre gloire,
oui.
C'est encore une autre nuance.
Oui.
C'est des fois difficile à...
Il parle de se glorifier, là.
Oui.
Et notre glorification, le fait de se glorifier se fonde sur d'avoir part à la gloire de Dieu. Je peux juste me réjouir d'avoir du plaisir, être satisfait que je participe à la gloire de Dieu. Et de la minute que ça se fait au détriment des autres, je veux dire, au dépens des autres, là c'est plus bon. Romains 5, mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Alors, si je suis réconcilié avec Dieu, on met notre fierté en Dieu. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu. Ça fait du bien. Hein? Il n'est pas orgueilleux, mais il est fier, bon et fidèle serviteur. Il y a une fierté du travail qu'il a accompli pour Dieu. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur au lieu de lui-même. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, c'est comme un refrain, hein? Il y en a d'autres. Dans Galates 6, 14, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, qui était un sujet de honte. Hein? Alors, il fait comme un petit parallèle avec la honte de la croix et la fierté que lui a d'avoir un sauveur qui a été crucifié. Philippiens, encore là, je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté. Hein? Vous-même, dans tous vos accomplissements, en Jésus-Christ. Philippiens 3:3, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Je pense que c'est clair. Nous mettons toute notre fierté dans le Seigneur Jésus. À lui soit la gloire. Et on participe, je pourrais dire, comme un bénéfice marginal. On participe à la gloire de Dieu. Et on peut être fier de ça. Et finalement, le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Alors, c'est tous des textes positifs, je dirais, sur la fierté qu'on peut avoir en Jésus. Et je vous lance la question cette semaine. Est-ce qu'il y a une différence entre être fier et orgueilleux? Je ne sais pas si Ben il veut ajouter quelque chose. Non? On se destinait pas mal cette semaine. On s'approche de la table du Seigneur. Oui,